Nous sommes le vendredi 28 mars. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous pour commencer ce vendredi matin. On va faire le tour des actualités aujourd'hui. Entre autres choses, qu'on va surveiller un puissant séisme qui a touché le centre de la Birmanie aujourd'hui. Plusieurs instituts de sismologie le rapportent. Ça a été ressenti même jusqu'en Thaïlande. Des scènes de panique à Bangkok. Un édifice en hauteur, en construction, qui s'est effondré. Il y aura des bilans à venir. On n'a pas encore de détails, mais il y aura certainement des morts à la suite de ce puissant séisme. On va surveiller ça dans les prochaines heures pour vous. Sinon, chez nous, pays qui risque de marquer la journée encore une fois au cours de cette campagne électorale fédérale, c'est toute la question des tarifs, cette menace d'imposition de tarifs par le président américain dans l'industrie automobile, parce qu'il y aura, Vincent Maisonneuve, une rencontre aujourd'hui entre le premier ministre sortant, Mark Carney, et également les premiers ministres des différentes provinces.
Voilà, et il pourrait même y avoir un appel téléphonique entre Mark Carney et Donald Trump. On ne sait pas exactement quand ça va se passer, mais on nous a dit que ça allait arriver très bientôt. Oui. Et le ton employé par Mark Carney hier, c'est quand même assez majeur de dire que la relation avec les États-Unis là, a changé, et va changer pour... a changé pour toujours. Mm-hmm. C'est ce qu'il a dit, que les Américains ne sont plus des alliés fiable. C'est une situation qui est quand même assez hors de l'ordinaire. Alors, Mark Carney, qui encore aujourd'hui va revêtir ses habits de premier ministre et mettre un peu de côté sa campagne électorale.
Effectivement, on s'attend à ce que ce soit aujourd'hui. De ce que je comprenais de François-Philippe Champagne, qui accordait des entrevues à nos collègues hier en fin de journée, en début de soirée, l'appel entre Trump et Carney devrait se faire aujourd'hui. On n'aura plus de détails, on va suivre ça. On vous revient donc dans les prochaines minutes. Le temps de faire un petit point météo avec Véronique Mérand. Bonjour Véronique.
Bonjour
je
Mathieu.
Je dis petit, mais enfin, il y a pas mal de choses à dire parce que, bon, compliqué. Aujourd'hui, ça devrait être pas si mal, mais demain, dépendamment des régions, ça pourrait être quoi, de la pluie, du verglas, de la neige, un
tout
mélange
ça.
De tout ça.
Bon. Exactement, tout ça. Et il y en aura samedi, il y en aura dimanche, il n'y en aura pas partout en même temps. Et la bande de neige qui va nous toucher à partir de cette nuit, elle est très, très, très étroite.
Okay.
Donc, il suffit qu'elle varie de quelques kilomètres pour que vous ayez 20 cm à un endroit et 10 km plus loin, 5.
Okay.
Donc, voyez, le jeu est vraiment... très, très mince. Alors, allons-y pour l'instant. Aujourd'hui, mélange soleil-nuage, des flocons encore ce matin. Pour l'Estrie, Québec, ça va se dégager un petit peu plus tard. Les vents sont présents, secteur ouest, nord-ouest, donc on n'a pas les mêmes impressions qu'hier. Là, on a chassé un petit peu cette aire de printemps. On aura des températures plus près de zéro. 3 à Montréal, mais ça variera entre moins 1 et 1 un peu partout. La neige commence tard ce soir, donc en général... 5 à 10 cm sur le sud du Québec, un petit peu plus que 10 localement, et une neige qui va cesser samedi midi, c'est terminé. Par la suite, il y aura des éclaircies. Les quantités vraiment les plus importantes seront du côté de l'Ontario. Alors, on y va avec un 5 à 10, une dizaine, plus près de 5 Montréal, plus près de 10 vers les montagnes de l'Estrie. Les températures samedi, entre 0 et moins 3 degrés, un vent du nord-est. Mais samedi après-midi, il fait quand même beau. Dimanche, on revient avec une deuxième impulsion et là, il y aura des précipitations verglaçantes. Ça commencera fin de matinée. Montréal, autour de 2 mm de pluie verglaçante, c'est pas grand-chose. L'Estrie aussi, la Beauce, 2 à 4. Mais vers les Laurentides, la Naudière, il pourrait y avoir un 10-15 mm. 5 à 10 vers Québec aussi. Mais Québec est plus à l'est, on est touché à partir de dimanche, fin de journée seulement. Mm-hmm. Il se passe rien avant ça. Et les régions de l'Outaouais, on ira chercher un 5 à 10 mm de précipitation verglaçante aussi. Dimanche soir, tout ça va se changer en pluie. Et là, on ira chercher 10-20 mm dans les endroits les plus affectés. Ça va traîner un peu sur une partie de la journée. Les températures vont grimper dimanche. On sera près de 5-7 degrés en fin de journée et on devrait dépasser la dizaine de degrés lundi.
Bon.
Alors,
c'est moyen comme prévision, ça. C'est moyen.
Je dirais que c'est moyen et c'est surtout compliqué parce que si ce système varie un peu, ça peut changer.
Ça peut changer.
Donc, il faut continuer de suivre
okay.
ça. Du du côté de l'Abitibi, c'est calme aujourd'hui. Ce sera pas mal tout le week-end. Le verglas commencera dimanche en après-midi. On pourrait aller chercher une quinzaine de millimètres de verglas pour l'Abitibi, le Témiscamingue. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, un peu de neige aujourd'hui sur la Côte-Nord aussi. 2 à 4 cm, c'est ce qu'on aura. Beau week-end. Les précipitations commenceront dimanche soir sous forme de neige. Il y aura un mélange de précipitations là-dedans. On parlait de quantité importante en Ontario. C'est du 15 à 25 cm sur les régions nord aujourd'hui en ce qui a trait à la neige. Toronto, c'est de la pluie. Windsor, on aura des risques d'orage. Tout ça commence en fin de journée. Risque de pluie verglaçante ce soir pour Toronto. Ottawa, neige grisille commençant ce soir. 10, une dizaine de centimètres dans l'ensemble. Il y aura du verglas dimanche. Et dans l'ouest, ça s'est calmé. On a eu des accumulations de neige importantes. 15 à 30 dans les prairies. Ça s'estompe graduellement ce matin.
Merci beaucoup, Véronique.
Bon week-end.
Bonne fin de semaine malgré tout. Olivier Pellerin se joint à nous. Bonjour, Olivier.
Salut, Mathieu.
Parlons de hockey canadien de Montréal qui affrontait les Flyers de Philadelphie. Pas exactement l'équipe la plus puissante. Une équipe qui était à portée de main, disons-là, comme ça, des Canadiens. Finalement, le CH a perdu.
Une équipe qui avait remporté seulement un match à ses 12 dernières rencontres.
Leur entraîneur n'avait pas été congédié.
Exactement.
John
Tortorella a été congédié hier. C'est Bradshaw, son adjoint, qui prend l'équipe par intérim. Ouais. Peut-être que ça a servi de motivation pour son équipe, parce que ce sont les Flyers qui ont dominé ce match encore. C'est une défaite de 6 à 4 du Canadien de Montréal. Le Canadien qui s'enlise, quatrième défaite consécutive. Le Canadien qui peine à être capable de se creuser un certain écart par rapport aux équipes qu'il a pour chasse. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune autre équipe qui gagne derrière le Canadien de Montréal. Donc, ça préserve un peu ce positionnement là avec cette huitième place donnant accès aux huitième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Hier, ça a été compliqué pour le Canadien. On a eu de la difficulté à contrôler la rondelle. On a encore une fois connu une mauvaise première période. On s'en était glissé un mot hier. Ça a été une autre sortie difficile pour l'équipe de Martin Saint-Louis. Et là, c'est deux matchs en deux soirs. Donc hier, on jouait contre les Flyers, défaite de 6-4. Et là, on s'en va à Raleigh, donc en Caroline, pour aller affronter les Hurricanes. La dernière fois que le Canadien a remporté un match à Raleigh, c'était en 2016, le 7 avril 2016. Donc, on n'arrive pas à acheter une victoire lorsqu'on est en Caroline. Et les Hurricanes ont remporté 8 de leurs 10 derniers matchs. Donc, ce ne sera pas simple. Mais Martin Saint-Louis voit quand même une équipe combative et qui serait capable de se sortir de ce marasme. On l'écoute.
C'est un groupe fier. C'est un groupe qui a de la bataille dans eux autres. C'est un groupe qui passe à travers une étape de leur, de où est-ce qu'on est comme équipe. Puis, on va se batailler, ça c'est sûr. Mais comme je te dis, là, un mois, on aurait payé cher où est-ce qu'on est. C'est sûr, c'est plate de perdre les deux dernières. Tu sens que tu échoues. Puis, on n'échoue pas. On va continuer à pousser.
Donc, il a mis le doigt sur des erreurs mentales lors du match d'hier. Et quand je parlais là, des adversaires directs du Canadien de Montréal, les Sénateurs ont gagné contre les Red Wings, ce qui fait que les Sénateurs, mais eux, se décrochent un peu du lot avec 81 points, 6 points devant le Canadien de Montréal.
Un petit mot sur Alexander Ovechkin. On parle beaucoup du nombre de buts marqués en carrière. Il va probablement, oui, sur le point de battre le record de Wayne Gretzky.
En fait, il a battu le record de Wayne Gretzky parce que c'est cette moyenne de un but par match ou un point par match, en fait. Et c'est sa 20e saison où Crosby va atteindre cette moyenne d'un point par match. Wayne Gretzky avait ce record. C'était 19 saisons. En voilà une 20e pour Sidney Crosby. Il a marqué un but hier dans une défaite de 7 à 3 hier contre les Sabres de Buffalo. Mais c'est beaucoup les records d'Alexander Ovechkin là, qui retiennent l'attention.
Oui,
c'est Sidney Crosby qui continue à prouver là, que c'est un joueur important, un joueur qui passera à l'histoire dans la Ligue nationale de hockey avec un autre record.
Mais pour ce qui est de Ovechkin, il reste encore des buts à marquer pour
battre. Oui, exactement. C'est pas fait, mais c'est en voie de se faire.
Dans le cas de Crosby, c'est fait.
Okay, j'allais dire en voie de se faire.
En voie de se faire. OK, merci beaucoup.
Bonne fin de semaine.
Alors Vincent, le premier ministre Carney l'a dit, il n'y aura pas de retour en arrière avec les États-Unis. Mark Carney qui devrait parler avec Donald Trump un peu plus tard aujourd'hui. Et donc va encore une fois porter son habit de premier ministre aujourd'hui en pleine campagne électorale. Il va entre autres rencontrer virtuellement, peut-être dans certains cas, en tout cas parler avec ses homologues des provinces.
Oui. Est-ce qu'il y aura cet appel avec Donald Trump aujourd'hui? Est-ce que ce sera plus tard en fin de semaine? On écoutait hier les ministres canadiens qui accordaient des entrevues et François-Philippe Champagne laissait entendre que l'appel pourrait avoir lieu aujourd'hui. Mm-hmm. Ensuite, c'était pas si clair. Mais ce qui est sûr, là, c'est que le premier ministre fédéral a convoqué ses homologues des provinces et des territoires pour discuter justement de la riposte canadienne aux tarifs douaniers. L'objectif, ben, c'est d'avoir une réponse canadienne coordonnée. Et ne l'oublions pas, là, il y a bien entendu les tarifs sur l'automobile, mais en plus, le président américain a promis d'imposer une série de tarifs réciproques à partir du 2 avril. Et ce que disait le premier ministre ontarien Doug Ford, c'est que même le secrétaire au commerce américain Howard Lutnick ne sait pas de quoi vont avoir l'air ces fameux tarifs réciproques. Mais pour revenir à Mark Carney, selon lui, les relations canado-américaines là, telles qu'on les connaît depuis le début du libre-échange, depuis l'amitié entre Ronald Reagan et Brian Mulroney dans les années 80, bien, cette relation-là, elle semble bien être brisée.
Il est évident que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Il se peut qu'avec les négociations compréhensives, on puisse rétablir un élément de confiance, mais il n'y aura pas de retour en arrière.
Tout ça a bousculé évidemment la campagne électorale, Vincent, surtout que les chefs des autres partis, évidemment, c'est plus difficile pour eux de se démarquer dans un tel contexte.
Oui, exactement. En effet, le chef conservateur Pierre Poilievre a souligné, lui, l'importance de développer une économie moins dépendante des Américains. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, veut encourager les Canadiens à acheter des voitures fabriquées au pays. Et le bloquiste Yves-François Blochet se demande pourquoi Mark Carney n'a pas encore parlé à Donald Trump.
Dans les prochaines 4 années, sous un nouveau gouvernement conservateur fort, le Canada aura complètement relancé son économie pour ne plus être dépendant des États-Unis.
Un gouvernement néo-démocrate va enlever la TPS sur les voitures construites au Canada pour encourager les gens d'acheter les produits canadiens.
La première chose que tu fais lorsque tu deviens premier ministre du Canada, c'est de parler au président des États-Unis. Mon impression, c'est qu'il avait peur de se faire rabrouer par le président américain et de perdre la face.
En tout cas, Mark Carney dit avoir des conditions qu'il veut faire respecter lors de son appel ou lorsqu'il aura une discussion avec Donald Trump.
Oui, il y a 2 conditions pour négocier avec les Américains. On écoute Mark Carney.
Premièrement, c'est le respect. Le respect pour notre souveraineté comme pays. C'est pas grand-chose, mais évidemment, c'est grand-chose pour lui. Mais il faut avoir le respect. Et deuxièmement, il faut avoir une conversation et une discussion compréhensive, y compris nos relations sécuritaires et économiques.
Merci beaucoup, Vincent.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Bonne fin de semaine.
On va continuer sur le sujet parce que, évidemment, ça a un lien, ce qu'on retrouve dans les quotidiens ce matin avec ce qui a été annoncé hier par le président américain. Gabriel Marcampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, Mathieu.
Parce qu'on a des sondages, ou un sondage en tout cas, qui indique que quoi, 1 Américain sur 5
oui.
souhaite que leur État devienne une province canadienne.
20% des Américains seraient favorables à ce que leur État devienne une province canadienne. C'est selon un sondage léger publié notamment dans le Journal de Montréal et dans le National Post ce matin. En comparaison, moins d'un Canadien sur 10 se dit favorable à l'idée que le Canada devienne le 51e État américain. Un chiffre qui, d'ailleurs, en baisse constante de semaine en semaine, nous dit l'article du Journal de Montréal ce matin. Chaque semaine, la firme Léger réalise un sondage des deux côtés de la frontière sur des sujets comme la perception des tarifs douaniers. La seule clientèle potentielle pour un Canada américain se trouve en Alberta, où une délégation d'indépendantistes a d'ailleurs l'intention de se rendre à Washington prochainement, et encore 15 % d'appui, une frange qui reste minoritaire. Le sondage qui a été réalisé en ligne entre le 21 et le 24 mars auprès de 1599 Canadiens et 1012 Américains. Et d'ailleurs, dans le Devoir ce matin, on nous dit que les chiffres confirment ce que beaucoup d'avocats et d'internautes constatent déjà. Plus d'Américains veulent devenir citoyens canadiens en ces temps agités. On voit en effet une hausse de 23 % des citoyens américains qui ont demandé à devenir Canadiens en 2024 par rapport à l'année 2023, avec un record des 10 dernières années, plus de 28 000 demandes. Et le début de 2025 montre aussi une augmentation marquée de cette tendance, nous dit le Devoir. En 2 mois seulement, janvier-février, un total de plus de 7 700 demandes de citoyenneté qui ont été faites, a indiqué Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne. Canada au devoir.
En une du Globe and Mail de ce matin, il est question d'experts qui ont été consultés par le quotidien et selon ces gens-là qui ont été consultés donc par le Globe, Ottawa devrait publier un avis de voyage pour les États-Unis.
Parce que des citoyens canadiens nés en Iran et en Afghanistan se voient refuser l'entrée aux États-Unis après avoir été soumis à des interrogatoires poussés à la frontière, disent ses avocats et ses conseillers en immigration. Les experts qui ont parlé au Globe and Mail ont demandé à Ottawa de publier un avis de voyage qui avertit les citoyens, les résidents, qu'ils risquent de se voir refuser l'entrée, de voir leur visa ou leur carte Nexus révoquée, voire d'être détenus ou expulsés s'ils se rendent aux États-Unis. Bien qu'il n'y ait pas de chiffre officiel sur les pays de naissance de ces Canadiens qui se voient refuser l'entrée aux États-Unis, plusieurs avocats ont déclaré au Globe and Mail avoir été contactés à ce sujet par un grand nombre de problèmes, en fait, par plusieurs personnes concernant un grand nombre de problèmes frontaliers depuis le 20 janvier, date à laquelle le nouveau président Donald Trump a signé un décret qui appelle à un contrôle plus strict des ressortissants étrangers.
Plus de détails aussi ce matin dans les journaux sur l'arrestation de Dave Turmel, qui était le criminel le plus recherché au pays.
Oui, notamment dans la presse ce matin, le chef de gang québécois qui était arrêté hier à Rome, Dave Turmel, surnommé Le Pic, a été appréhendé dans son appartement, n'a pas résisté à son arrestation, dit une source au journaliste Daniel Renault de la presse. D'ailleurs, c'est la une ce matin du Journal de Montréal, trahi par un ami. Le jeune caïd qui a été impinglé hier après avoir été trahi par un de ses proches, dit Félix Séguin. Et selon les sources du bureau d'enquête de Québecor, la prime offerte 250 000 $ aurait contribué à son arrestation.
Merci beaucoup, Gabriel.
Bonne journée, bon week-end.
Bonne journée, bonne fin de semaine. Vendredi, chronique culturelle de Julie-Jasmine Boudreau-Storcy. Bonjour Julie-Jasmine.
Salut Mathieu.
Commençons en parlant de théâtre au théâtre Denise Pelletier. Ça, c'est un théâtre où il y a beaucoup de productions, où on invite beaucoup des groupes scolaires voilà. pour voir des pièces de théâtre. Un classique de la littérature anglaise qui est présenté, c'est la pièce Orgueil et préjugés.
Oui, c'est ça. Et c'est d'après un roman de Jane Austen de 1813. Et d'ailleurs, l'histoire en tant que telle a eu plusieurs incarnations. Quand je dis plusieurs, là, Mathieu, c'est une centaine d'incarnations, c'est-à-dire à la télé ou encore au cinéma. Mm-hmm. Puis là, je vous ramène en 2005. Keira Knightley jouait dans ce film-là. Elle avait été d'ailleurs nommée aux Oscars. Et là, bien sûr, là, on est dans le théâtre et l'histoire est au début du 19e siècle en Angleterre. On a la famille Bennett. La famille Bennett est composée de 3 filles, 3 jeunes femmes, 3 sœurs. Et comme on veut assurer l'avenir de ces jeunes femmes, rien de mieux qu'un mariage arrangé, comme le veut la coutume de l'époque. Alors, c'est Elisabeth, dite Lizzie, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et elle, ben, c'est une idéaliste. Elle rêve de l'amour, le grand, le pur, le vrai. Et elle va rencontrer Darcy. Darcy est un être suffisant. Et vous allez voir, dès la première rencontre, ben, ça annonce rien de bon.
Votre visage est terne en comparaison à celui de votre sœur. Les faits objectifs ne devraient blesser personne.
Vous vous donnez beaucoup de pouvoir en affirmant que vous m'avez blessée. Par ailleurs, vous êtes en droit de préférer le visage de ma sœur au mien.
Votre jalousie me fait sourire.
Et c'est pourtant du dégoût que vous voyez apparaître sur mon terne visage. Je déteste entendre parler de physique quand j'essaie de parler de cœur.
Oh, c'était une remarque qui venait de mon cœur.
Alors votre cœur m'ennuie plus encore que vous-même.
Parfois, on reprend ces classiques et puis on les met à la sauce d'aujourd'hui. Ou est-ce qu'on respecte les codes de l'époque? Comment ça a été traité?
C'est intéressant parce que je dirais que le texte est moderne, il s'appuie sur du sarcasme, c'est souvent très drôle, incisif et avec un public très réactif. Pour le reste, la mise en scène, je dirais, est assez traditionnelle dans la mesure où les décors le sont, les costumes somptueux, bien sûr. C'est une très grosse distribution, c'est 8 acteurs sur scène, majoritairement tous assez jeunes, bien sûr. Puis d'ailleurs, Elisabeth Lizzie, c'est une diplômée de l'École nationale de théâtre depuis 2021. Donc, elle n'a pas énormément de bagage à son actif, mais il va avec un aplomb, ma foi, très considérable. Elle est vraiment au cœur de la pièce. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on joue avec les codes d'époque parce que la musique, elle est originale et elle est composée par le duo Gustafsson. Ce sont 2 musiciens, comédiens qui s'appellent Adrien Bléton et Jean-Philippe Perrin. Alors, ça donne quelque chose de très dynamique, mais aussi anachronique.
Thank you. Oui, on imagine moins cette musique-là avec les costumes d'époque. Ça, comme ça marche pas.
Et sa danse, il y a de la chorégraphie, ça fonctionne extrêmement bien. Puis je dirais qu'évidemment, l'idylle se précise entre Lizzie et Darcy, mais il y a quand même d'autres prétendants qui s'ajoutent à l'histoire. Un cousin pasteur, un beau parleur militaire. Et moi, je vais être confession du vendredi matin. Mm-hmm. Je n'ai pas aimé Downton Abbey, Mathieu.
OK, je ne l'ai pas écouté, fait, je peux pas renchérir là-dessus.
Je n'ai pas particulièrement aimé ça.
La blonde a beaucoup aimé ça, par exemple.
Puis je suis sûre que nos auditeurs vont vouloir me lancer des tomates. Mais j'ai adoré cette intrigue amoureuse de campagne anglaise. Alors, on a ajouté des supplémentaires. C'est au théâtre de Denise Pelletier. Ça s'appelle Orgueil et préjugés jusqu'au 12 avril.
Surprise pour Ariane Moffat qui nous a lancé un album que, ma foi, pas grand monde ou même personne n'attendait.
Exact. Ah oui. Depuis dimanche minuit sur les plateformes, ça s'appelle Air de jeu. J'adopte sérieusement ces pièces joyeuses parce que ce sont des pièces soleil. Et d'ailleurs, elles portent des verres fumés sur la pochette.
Comme on dit, c'est up tempo, c'est up la vie, c'est joyeux comme album.
Je dirais parfait pour l'apéro printanier.
OK.
D'accord, parce que ces chansons sont vivantes, en tout cas les plus rythmées, électropop, vous l'avez entendu bien sûr, ce sont celles qui me plaisent le plus. Je pense à J'aime mes problèmes ou encore la pièce Petite joie. Elle a mitonné tout ça, ces rythmes-là. Elle enseigne la direction artistique. Alors, allez tendre l'oreille parce qu'elle va commencer sa tournée là, à côté du 24 avril pour le présenter sur scène et ça s'appelle Air de jeu.
Air de jeu d'Ariane Moffat, un nouvel album donc lancé il y a quelques jours. Et puis, de la grande visite en fin de semaine, Kylie Minogue.
Oui.
Star internationale, quand
star
même.
Star internationale. Ah, oui. Bon, évidemment, australo-britannique, 56 ans. Son dernier passage au Centre Bell, c'était en 2011. Alors, ça fait quand même un bail. Et là, Mathieu, je vous prends par la main et on va remonter le temps ensemble. Je vous ramène en 1988.
Très, très, très connue. Gros tube. J'aurais pas pu dire que c'est elle. On dirait que je l'associais pas ça à elle. Mais...
Bien, la créatrice, c'est Carole King. Il y a eu plusieurs incarnations là aussi de cette pièce-là. Puis je vous dirais, pour moi, Kylie Minogue, c'est en fait un véritable phénix qui renaît toujours de ses cendres. Donc, les années 80, très, très fortes. Ensuite, on se rend aux années 2000. Can't Get You Out of My Head, un gros tube pop dans ces années-là. Puis là, 2020... Elle sort aussi, elle ressuscite à nouveau avec deux albums, dont le plus récent s'appelle Tension 2 et il a été lancé l'automne dernier. Alors, elle est samedi à Toronto, elle est à Montréal dimanche et à la fin du mois à Vancouver. Alors, voilà pour cette boucle rythmique parfaite. Et est-ce qu'on prend le train du week-end?
On va prendre le train du week-end avec plaisir. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Merci à vous d'être à l'écoute. Oui, bon, un week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Salut.